Il est 11h30, Infomag avec Jean-François Baudin.
C'est la journée nationale de la résistance ce 27 mai. Une cérémonie était organisée ce matin à la Croix-de-Lorraine. Retour sur la réunion du comité de décolonisation de l'ONU la semaine dernière au Timor oriental. Notre invitée était ce matin l'ambassadrice de France pour le Pacifique, Véronique Roger-Lacan. Le gouvernement, la province sud, la CCI et la CMA à l'écoute du besoin des entreprises hier soir. Il s'agit de voir comment affiner les dispositifs existants et lever un certain nombre de contraintes qui pèsent sur les entreprises. Emmanuel Macron a-t-il été frappé par son épouse? Une vidéo virale alimente la polémique et oblige le chef de l'État à réagir. C'était une chamaillerie, c'était injustifié. Le tennis avec la suite de Roland-Garros. Richard Gasquet qui joue son dernier tournoi pro s'est qualifié pour le deuxième tour. Il affrontera le numéro 1 mondial, Yannick Sinner. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi comme tous les mardis par le magazine Citoyen. Bonjour Nicolas Legrand.
Bonjour Jean-François Baudin.
Un citoyen cette semaine qui s'intéressera au bien-être animal.
Oui, puisque la semaine dernière, la fourrière de Ducos a inauguré un espace de détente pour les animaux afin d'améliorer les conditions d'accueil. Nous en parlerons notamment avec Olivier Berthelot, le président du SIGN qui gère le site. Nous parlerons également plus globalement de la situation sur le territoire en compagnie de Thibaut Raffard, chargé de mission bien-être animal au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi en compagnie de responsables associatif, Michel Gauthier, le président de la SPANC, et Virginie Sala, la présidente d'Animal Action NC. Rendez-vous donc juste après votre journal.
On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. C'est ainsi que peut se résumer le devoir de mémoire. Aujourd'hui, c'est le 27 mai et c'est la journée nationale de la résistance. Un dépôt de gerbes était organisé à cette occasion à la Croix-de-Lorraine ce matin, Léana Colombo.
En cette année 2025, nous commémorons les 80 ans des débarquements, de la libération et de la victoire. Et plus que jamais, le devoir de mémoire doit perdurer. Les autorités civiles et militaires étaient réunies comme chaque année pour une cérémonie d'hommage. Cérémonie durant laquelle le haut-commissaire Jacques Billon a procédé à la lecture du message de Patricia Mirallès, la ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Écoutez la réaction de Jacques Billon à l'issue de la cérémonie, précédée d'un extrait du discours lu par le haut-commissaire.
Lecture du message de Madame Patricia Mirallès, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Quand le pays semblait s'être effondré sous le pas de l'ennemi, quand l'espérance paraissait se taire jusque dans les pierres les plus anciennes, il y eut des âmes debout. Il y eut des femmes, des hommes, des jeunes parfois à peine sortis de l'enfance qui ne voulurent pas croire que la France pouvait mourir sans avoir lutté jusqu'au bout.
Dans ce discours, il est écrit que sans la résistance, la France aurait pu être libérée, mais elle n'aurait pas été relevée. Sans la résistance, la France aurait survécu, mais elle n'aurait pas été rétablie avec cette force intérieure, cette légitimité du sang versé pour elle. Et aujourd'hui, ce recueillement en mémoire de ces héros de la résistance, eh bien, c'est pas simplement pour rendre mémoire à ces visages disparus, mais c'est pour les assurer de notre fidélité.
Il y a celles et ceux que l'histoire a retenus et il y a aussi les milliers de visages anonymes. Leur demeurer fidèle, c'est aujourd'hui encore cultiver leur héritage, pouvait-on également entendre dans le message de la ministre Patricia Mirallès. Pour Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement, cette idée de résistance traverse le temps et fait écho encore aujourd'hui à la situation que connaît la Nouvelle-Calédonie.
C'est des notions déjà de mémoire, donc il est important à chaque cérémonie de pouvoir rendre hommage de cette façon. Et puis il y a une idée aussi importante dans la résistance qui traverse le temps, c'est-à-dire celle de la résilience. On l'a entendu dans un très beau discours, d'ailleurs c'est un discours qui était, je trouve, assez unique pour cette année. Donc la résilience, l'attachement aux valeurs, le fait qu'on puisse croire aussi à un avenir plus prospère quand les choses ne vont pas, donc au-delà du niveau national, nous, ici en Nouvelle-Calédonie, pour les responsables politiques, évidemment que ça résonne pour nous dans une période où la Nouvelle-Calédonie, même si c'est sans comparaison, fait face à de grandes difficultés et où nous avons la force avec les Calédoniens de relever la Nouvelle-Calédonie.
Ce matin, Michel Gargon, fils et petit-fils de résistants, étaient présents à la cérémonie. Un devoir de mémoire qu'il se donne pour mission de perpétuer pour honorer ce qu'a vécu sa famille.
La résistance est une valeur forte dans la mesure où mon grand-père paternel était aussi impliqué. Tous ces gens-là ont plus ou moins pris le maquis. Mon père faisait partie d'un réseau lourd qui s'appelait le réseau Combat. Il était chargé de transmettre entre autres des messages du général de Gaulle à tout le maillage des réseaux. Il s'est fait arrêter, il s'est fait dénoncer, donc il a été arrêté à Nîmes. Et là, de Nîmes, il est parti dans la Villa des Rosiers à Montpellier, où il est passé à la question par la Gestapo. Et ensuite, il est rentré, il est monté sur Compiègne, et Compiègne après, donc il a été déporté dans le camp de Buchenwald et de Dora. Donc il en est sorti, et il est revenu en Nouvelle-Calédonie en fin 48, début 49. Et c'est là qu'il a commencé à exercer son métier de magistrat. Il était magistrat en Nouvelle-Calédonie. Il a continué donc toute sa carrière, voilà.
Pour rappel, deux Calédoniens ont été déportés dans des camps de concentration, Jacques Barrault et Sylvain Gargon, qui est donc le père de Michel Gargon. Si vous l'avez entendu, Sylvain Gargon a terminé sa carrière de magistrat en tant que conseiller à la cour en Nouvelle-Calédonie. Jacques Barrault a quant à lui refait sa vie en métropole.
Retour sur la réunion du C24 qui s'est tenue la semaine dernière à Dili, au Timor-Oriental. Nous en avons parlé avec l'ambassadrice de France dans le Pacifique Sud, Véronique Roger-Lacan, qui représentait la France à ce séminaire, Elisabeth Noir.
Véronique Roger-Lacan était notre invitée du matin à 7h30. Elle rappelle que le comité de décolonisation a été mis en place en 1960 par une résolution de l'ONU, une résolution qui est censée mettre en œuvre la décolonisation.
La décolonisation, ça signifie en fait, ça a été défini par des résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est l'autodétermination. Et l'autodétermination, il faut être très clair, ça ne veut pas dire automatiquement indépendance. Ça veut dire quatre choses, ça veut dire indépendance ou intégration dans un État déjà indépendant, ou État-association, ou toute autre solution négociée. Et donc, ce sont ces quatre solutions qui doivent être offertes démocratiquement par les États qui sont en relation avec des collectivités dans ce cadre-là.
Et cela signifie donc, explique Véronique Roger-Lacan, que l'on peut sortir de la liste des pays à décoloniser.
Pour la Nouvelle-Calédonie, la question avait été inscrite en 1986 à la demande des indépendantistes et c'est un vote de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et nous, l'État, nous n'avons pas accepté de siéger au comité 24 à ce moment-là. Ce n'est qu'en 1998, quand l'accord de Nouméa a été négocié et qu'il a été prévu dans l'accord de Nouméa que le cheminement de la Nouvelle-Calédonie vers l'émancipation sera porté à la connaissance de l'ONU, que nous avons siégé à ce comité chaque année. Et donc c'est dans le cadre des accords de Nouméa que cette discussion se tient à l'ONU au comité 24.
Le retrait de la Nouvelle-Calédonie de la liste du C24 se fera donc après la période transitoire qui suit les trois référendums. On est donc dans cette période transitoire et la semaine dernière, déclare l'ambassadrice de France dans le Pacifique, le débat s'est tenu dans des termes démocratiques et sans agressivité, sans comparaison avec ce qui s'est passé l'an dernier à Caracas où le C24 était réuni le 13 mai et où c'est Michael Forrest qui représentait le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette fois-ci, c'est Alcide Ponga qui représentait le gouvernement. Et selon Véronique Roger-Lacan, il a rencontré un grand succès.
Le président Ponga a représenté le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. C'est la première fois qu'un président du gouvernement Nouvelle-Calédonie vient et ça a été extrêmement bien reçu. Je vais dire que c'était presque le héros, ça a été le héros du comité 24. En plus, avec son côté très simple et en même temps très politique, il a séduit des membres du comité 24.
Parmi les thèmes évoqués au C24 par les partisans de la France, la question des ingérences étrangères. Les pétitionnaires indépendantistes, dont Roque Mitan, ont de leur côté réclamé la libération de ce qu'ils appellent les prisonniers politiques, l'occasion d'une mise au point de la part de l'ambassadrice de France dans le Pacifique.
Prisonnier politique, ça c'est une vue de l'esprit, je voudrais dire, parce que juridiquement et judiciairement, il n'est en aucun cas question de cette terminologie pour les prévenus détenus dont on parle et qui sont considérés comme des commanditaires des émeutes de mai 2024. Et le processus judiciaire suit son cours. Nous sommes dans un État démocratique dans lequel la séparation des pouvoirs est quelque chose de fondamental et donc il n'y a aucune possibilité que le politique, que le gouvernement demande au judiciaire d'aller dans un sens ou dans un autre. Donc le cours de la justice continue et on verra ce que les juges décideront pour des personnes, encore une fois, qui sont considérées comme des prévenus commanditaires des émeutes.
Et puis autre point de litige à Dili, la proposition faite par les indépendantistes polynésiens que le comité des 24 se réunisse en 2027 en Polynésie française et la France s'y est opposée.
La France y est opposée d'une part parce que la France n'a pas été mise au courant avant que la proposition soit faite. J'ai découvert sur place et le président Brotherson s'est exprimé à ce sujet. Le journaliste lui a demandé pourquoi il ne nous avait pas prévenu. Et le président Brotherson a répondu « Si j'avais prévenu Véronique Roger-Lacan avant, elle aurait empêché le truc. » Donc je suis très flattée que le président Brotherson m'attribue ce genre de pouvoir. Mais surtout, elle n'est pas acceptable parce qu'elle n'est pas présentée dans un cadre consensuel. Les représentants du Tapoura, donc de l'opposition au président Brotherson, ont dit qu'ils ne souhaitaient pas que ce séminaire se tienne et puis en effet que ça ne faisait pas l'objet d'une proposition consensuelle. Et ce n'est pas le comité 24, est représenté avant tout par les gouvernements et les gouvernements sont censés représenter un point de vue quand même pas si partisan que ça s'agissant de cette décolonisation.
Et en général, l'avis des États est suivi et le C24 ne devrait donc pas se réunir en Polynésie française. Une interview de Véronique Roger-Lacan à retrouver bien sûr en podcast audio et vidéo sur notre site internet.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec d'abord la réponse à notre question d'hier et 76% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment qu'il est utile que des personnalités comme François-Xavier Bellamy ou Marine Le Pen effectuent une visite en Nouvelle-Calédonie. Ils sont 24% à être d'un avis contraire. Et puis voici notre question du jour. La reprise de l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie est-elle selon vous un bon signe dans le climat morose que connaît le territoire ? Si vous trouvez que c'est un bon signe, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Il est 11h42, très précisément. Une première pause dans ce journal. On voit ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie dans un petit instant.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Chicken wing, chicken wing, chicken wing, chicken wing, chicken wing, chicken wing.
Ségel, envie d'un repas rapide ou d'un plat qui déchire, essayez nos chicken wings en version Tex-Mex bien relevé ou barbecue tout en douceur, prêt en quelques minutes et pleine de saveurs.
Ségel, tous les jours et les grands jours. Rendez-vous au 4 186 rue Jacques Yekawe, 4e kilomètre. Le 4, faites vos courses autrement. Retrouve toutes nos informations sur la page Facebook Le 4.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie est plus de 2h30 d'échanges, de questions et de témoignages. Le gouvernement organisait hier soir en partenariat avec la province sud, la CCI et la CMA une rencontre avec les chefs d'entreprise. Plusieurs centaines d'entre eux, pour la plupart de petites entreprises, sont venus à la rencontre des élus, le plus souvent, Léana, pour partager leurs difficultés.
Des entreprises prises à la gorge qui n'ont plus de trésorerie et ne peuvent plus faire face à leurs charges. Des interrogations sur la suite du chômage partiel, sur les assurances, sur les banques ou encore sur la pression venant des services fiscaux ou de la CAFAT. Il y avait parfois de la colère et souvent de l'émotion dans les témoignages des chefs d'entreprise présents hier soir à la Maison des artisans à Nouville. Cette réunion était utile et selon Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie, elle a atteint ses objectifs.
Déjà une nécessité de dialogue avec eux. C'était la première des choses. On a des gens aujourd'hui qui sont vraiment dans l'attente d'avoir des dispositifs qui leur conviennent. Il y a encore beaucoup d'attentes. On a mis des dispositifs en place il y a un an, il y a 6 mois, il y a 3 mois. Mais il y a encore des entreprises qui sont en difficulté sur les assurances, sur le RUAM, sur les impôts. Et il faut qu'on apporte des réponses et c'est bien notre job d'apporter des réponses. On voit qu'il y a un problème sur la trésorerie des entreprises et sur le fait d'avoir des décalages de charges et peut-être un abandon de charges in fine pour les entreprises les plus en difficulté. Il y a un problème avec le RUAM. On l'a vu ce soir, donc on verra la CAFA dans les prochains jours pour en discuter, pour mensualiser, pour abandonner, pour décaler. Enfin, en tout cas, il faut trouver des solutions, il faut en apporter parce qu'il y a des gens qui sont en grande détresse et il faut leur apporter des réponses aujourd'hui.
Les participants ont remercié pour les aides déjà mises en place, notamment par exemple le dispositif Sudpro déployé par la province Sud. Mais ces aides restent insuffisantes et l'engagement des collectivités ne pourra pas tout régler, a expliqué la présidente de la province Sud, Sonia Baquès.
À la province Sud, on a gardé d'enveloppe d'investissement en faisant des très grosses économies sur notre fonctionnement, mais on a gardé notre enveloppe d'investissement. Mais le problème, c'est que comme il y a moins d'investissements privés, le public ne peut pas tout compenser. Donc on voit bien que les sociétés sont quand même en attente hyper forte des chantiers publics, alors que les chantiers publics ne peuvent pas remplacer la totalité de la commande privée qu'il y avait avant. Donc là, les choses, malgré tout, s'accélèrent, même si La dernière venue de Manuel Valls a quand même plutôt paniqué tout le monde et a ralenti ce frémissement qu'on ressentait avec l'enveloppe de reconstruction de l'État, avec le prêt de l'État qui était accordé, avec le fait que les collectivités relançaient, les assurances qui payent. Tout ça faisait que la relance repart. Et en fait, c'est vrai que les annonces politiques complètement décalées de Manuel Valls ont fait un électrochoc qui n'était pas forcément dans le bon sens.
En préambule de la réunion, le président de la CCI, David Guyenne, a présenté 7 propositions concrètes urgentes pour sauver les entreprises. Une réunion à laquelle participaient également le président du gouvernement, Alcide Ponga, et la présidente de la Chambre de métiers de l'artisanat, Elisabeth Rivière.
En bref, la réunion ce soir du conseil municipal de Nouméa. Les conseillers doivent entre autres valider le compte administratif du budget principal 2024. Ils doivent aussi se pencher sur des ajustements d'organisation de la police municipale et doivent aussi, à la demande de la province Sud, habiliter le maire à engager une quatrième modification du plan d'urbanisme directeur. L'UGPE et la province Sud devant le tribunal administratif. Aujourd'hui, l'Union des groupements de parents d'élèves souhaite faire annuler la délibération de la collectivité sur l'attribution des bourses scolaires. Prise en juillet 2024, cette délibération fixe à 10 ans le nombre d'années de résidence nécessaires pour l'obtention des bourses de premier et second degré et enseignement supérieur. Le recours étudié aujourd'hui est un référé de suspension qui vise à suspendre la délibération de la province dans l'attente du jugement concernant son abrogation. L'UGPE a justifié l'urgence de la situation par l'atteinte à l'instruction que provoque selon elle cette décision de la province. La décision du juge concernant ce référé de suspension sera rendue vendredi ou en début de semaine prochaine. Et puis une enquête a été ouverte après la découverte d'une importante quantité de poissons morts au niveau de l'embouchure de Wao à Yaté hier. Les gendarmes de la commune ont informé la province sud qui a procédé à des prélèvements d'eau et de poissons sur place. Une partie des échantillons prélevés a été conservée en réfrigérateur dans l'attente d'analyses complémentaires. Deux agents des services techniques environnementaux de la province sud se sont rendus sur site ce matin pour effectuer les premières constatations et récupérer les échantillons. Selon l'hypothèse la plus vraisemblable, la situation serait due à un relâchement d'eau du barrage de Yaté. L'association Cris et Pleurs des femmes organise aujourd'hui dans la tribu de Poté à Bouraille une opération de sensibilisation sur le thème des violences. L'objectif est de parler de tous les types de violences, physiques, psychologiques, verbales ou sexuelles. Une initiative soutenue par les coutumiers de la tribu et la mairie de Bouraille. Les coordinatrices du dispositif d'accueil des victimes du Médipôle sont également sur place. Elles apportent des outils concrets pour se défendre et orienter les personnes dans le besoin. Cet après-midi, un temps d'échange libre est prévu. Pour Yvette Danguigny, la fondatrice de l'association, il s'agit que chacun puisse identifier les violences et s'exprimer.
Toute personne qui sera présente à la sensibilisation ce matin soit capable de détecter une situation de violence et de venir et d'orienter les victimes, de leur donner les adresses qu'ils font pour pouvoir les orienter vers les services sociaux, les services de la province. La parole se libère de plus en plus aujourd'hui parce que il y a des femmes, je veux dire, un peu comme moi, qui est la voix des autres femmes qui ne parlent pas. Et quand les femmes s'adressent à moi, elles me disent « Tu dis ce que nous, on ne peut pas dire. » Alors, moi, je porte la voix des femmes qui ne peuvent pas parler. Je dénonce. Je suis dans la dénonciation de tous ces actes de violence et d'opale.
Et une autre action de sensibilisation est prévue au mois de juin à Ponérihouin. Les jeunes catholiques calédoniens se préparent au JMJ 2027, les journées mondiales de la jeunesse qui se dérouleront à Séoul, en Corée du Sud. Hier, en compagnie du Père Ngo, le comité JMJ-NC 2027 rencontrait le nouvel archevêque de Nouméa, Mgr Sione Poé, pour lui présenter ses projets et ses objectifs. Et le nouvel archevêque les a bien sûr encouragés.
C'est un groupe qui est très motivé et je le félicite. Je les encourage à compter dans l'esprit de conviction afin de bien préparer les jeunes qui vont représenter notre diocèse. C'est un rassemblement de tous les jeunes chrétiens qui viennent, qui prient et qui partagent tous ensemble, qui sont sous le même drapeau, guidés par le même esprit, le nom de Christ, mais qui partagent avec le reste du monde leur foi, leur culture, leur conviction.
La rencontre a permis de faire un point sur la nouvelle équipe, mais aussi sur le projet JMJ Séoul 2027, comme le souligne Georges Tara Aoyo, le président du comité JMJ-SC 2027.
L'objectif, bien sûr, c'était de présenter déjà le comité GMJ 2027 qui accompagne les GMJistes durant toute la préparation jusqu'à leur départ et leur retour. Sur l'ordre du jour annoncé aujourd'hui, il était question de trois parties. La première partie, c'est bien sûr toute la partie spirituelle qui est très importante, qui a été préparée par Père Jacques Souta. Ensuite, une petite nouveauté cette année avec le nouveau site GMJ du diocèse. Tous les jeunes de chaque paroisse pourront et auront l'occasion de s'inscrire sur ce site avec plein d'informations et bien sûr toute la partie opérationnelle, organisationnelle que nous avons mis en place pour les GMJ à Séoul 2027.
Le premier rassemblement de préparation de ces GMJ 2027 se tiendra du 22 juillet au 2 août au foyer Saint-Léon à Païta. Il est ouvert à tous. Et si vous souhaitez participer aux Journées mondiales de la jeunesse à Séoul, notez que la clôture des inscriptions a été fixée au 31 août prochain. Un mot d'actualité dans la région avec cet incendie à l'intercontinental de Bora Bora. Le feu a pris dans un bungalow et les flammes attisées par un vent violent ont touché trois autres logements. L'hôtel a été évacué le temps de l'intervention des pompiers. En tout, quatre bungalows, deux à terre et deux sur pilotis ont été touchés sur la soixantaine que compte le complexe hôtelier. Aucun blessé n'est à déplorer. À 11h51, la deuxième pause de ce journal. On se retrouve dans un instant pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde avec cette question qui agite beaucoup de monde. Brigitte Macron a-t-elle frappé son mari ?
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
3 francs de remise tous les jours et le mardi c'est même 5 francs et des points accumulés.
Avec vos stations Shell et Pacifique, bénéficiez d'une remise sur le carburant de 3 francs par litre tous les jours grâce à votre carte fidélité. Et encore mieux, c'est 5 francs par litre le mardi et tous les jours que je cumule des points qui se transforment en bons d'achat. Les stations Shell et Pacifique, toujours à vos côtés pour économiser.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole et dans le monde, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Bodin.
Et c'est donc une vidéo virale qui suscite beaucoup d'interrogations. Brigitte Macron a-t-elle frappé son mari ? Cette vidéo montre l'arrivée du couple présidentiel à Hanoï. Au moment où s'ouvre la porte de l'avion, on voit le président de la République recevoir la main de son épouse dans le visage. Il apparaît surpris avant de se reprendre immédiatement. Devant l'ampleur des commentaires, le chef de l'État a été contraint de revenir sur le sujet. Il s'agissait d'une chamaillerie, a-t-il expliqué.
Nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse. Je suis surpris par cela. Devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories. Tout ça, c'est un peu n'importe quoi. Les vidéos sont toutes vraies. On fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises.
Et Emmanuel Macron s'est plaint d'être victime de plusieurs vidéos trafiquées. Il vise les comptes pro-russes et les complotistes.
Les réseaux sont toujours les mêmes. Hein. Les Russes sont des bons alliés. Les extrêmes en France, des formidables proxys. Et après, on a des tas de comptes, anonymes ou pas. Et puis, on a toujours les mêmes qui... Ça leur monte le caramel à la tête, y compris des rédacteurs qui n'ont jamais beaucoup aimé ce que je faisais, qui expliquaient ce matin que j'avais une diplomatie d'homme battu, vous voyez, pour vous dire à quel point ce sont des fadas.
Des fadas, des maboules, dira même Emmanuel Macron, visiblement agacé par une polémique dont il se serait bien passé. Bruno Retailleau détaille ses propositions pour lutter contre l'entrisme islamiste. On se souvient que le rapport sur la question de la stratégie de diffusion des thèses islamistes par les frères musulmans en France avait provoqué de l'agacement d'Emmanuel Macron, qui pointait le manque de mesures concrètes pour lutter contre le phénomène. Et il avait demandé au ministre de l'Intérieur de présenter des mesures d'ici le mois de juillet. Bruno Retailleau n'a pas attendu. Lors d'un déplacement dans les Hauts-de-Seine, il a détaillé ses propositions. Et pour lutter contre ce qu'il a appelé l'écosystème islamiste, Bruno Retailleau plaide pour une refonte de l'organisation de l'État.
Il faut que l'État, qui en France est bâti en tuyaux d'orgue, est très cloisonné, puisse mieux se coordonner pour être beaucoup, beaucoup plus efficace.
Les renseignements territoriaux doivent être à la manœuvre, mais aussi Tracfin ou encore le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et Bruno Retailleau dément avoir été recadré par le président de la République lors de la présentation du rapport en Conseil des Défenses.
Non, moi je n'ai pas pris cela comme un recadrage. L'important, c'est que désormais, y ait un objectif commun.
Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. C'est une victoire pour les agriculteurs. Ils s'étaient mobilisés devant l'Assemblée nationale au moment où les députés examinaient la loi Duplon, du nom d'un sénateur LR, loi qui prévoit de lever des contraintes qui pèsent sur le monde agricole. Les députés de gauche opposés au texte ont décidé de faire de l'obstruction parlementaire et ont déposé plus de 3500 amendements. Les défenseurs du texte ont voté une motion de rejet préalable, ce qui fait que le texte est renvoyé en commission mixte paritaire, une manœuvre habile qui permet d'éviter l'enlisement des débats et qui satisfait les agriculteurs. Le reportage devant le Palais Bourbon de Théo Grévin pour Europe 1.
Devant les grilles du Palais Bourbon, un concert de klaxons marque l'arrêt de la mobilisation. Une interruption temporaire préviennent déjà les agriculteurs. Tous attendent maintenant que 14 députés et sénateurs s'accordent sur une version commune du texte. Loïc tient une exploitation dans les Yvelines.
On reste très vigilant. Tant que la loi n'est pas écrite dans le marbre, on restera sur le pied de guerre. On verra maintenant la commission mixte. Je ne sais pas dans combien de temps ça va se passer. J'ai cru comprendre que ça va être assez rapide normalement. On est prêt à revenir. On reste sur le qui-vive et on reste très vigilant.
Une vigilance indispensable tant cette loi est primordiale pour l'avenir de la profession, expliquent les agriculteurs. La diminution du nombre de contraintes qui pèsent sur le métier, c'est la priorité absolue de Robin, jeune cultivateur dans la Marne.
Nous, c'est notre avenir qui est en jeu actuellement. C'est la dernière ligne droite pour ce projet-là, en tout cas pour cette loi-là. Et donc, on est motivé à ne pas lâcher. Nos aînés le savent que la politique prend du temps. Et donc, il va falloir prendre son mal en patience et attendre, il n'y a pas de souci.
Une première étape, les agriculteurs attendent maintenant une victoire définitive et l'adoption de la loi dans les prochaines semaines.
Forte inquiétude sur les finances de la sécurité sociale. Un rapport de la Cour des comptes pointe un risque de crise des liquidités. Particulièrement visé, le régime d'assurance maladie qui accuse en 2024 un déficit de 15 milliards d'euros, 5 milliards de plus que les prévisions. Alarmant, estime le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici.
Le déficit s'est creusé de près de 50% par rapport à la prévision. Ça veut dire qu'en 2 ans, le déficit de la Sécu sera multiplié par 2. Le financement de la Sécu n'est plus assuré à terme, sauf mesures vigoureuses de redressement.
Et en 2025, le déficit pourrait atteindre 22 milliards d'euros, soit un dérapage de 7 milliards. L'actualité à l'étranger avec ce drame en Grande-Bretagne. Les supporters de Liverpool fêtaient dans la rue le titre de champion d'Angleterre de leur équipe lors d'une grande parade. C'est à ce moment qu'un véhicule a foncé dans la foule. Plusieurs piétons ont été blessés. Antoine Bienvaux pour Europe 1.
Il est environ 18h lorsqu'un monospace noir fonce sur la foule compacte de supporters. Le véhicule percute plusieurs piétons sur une petite dizaine de mètres avant de stopper sa course. Certaines victimes sont projetées au sol tandis que d'autres semblent coincées sous la carrosserie de la voiture. Très rapidement, les secours sont appelés et plusieurs blessés sont évacués sur des civières. Aucun bilan officiel n'a pour l'instant été communiqué par les autorités. Selon les informations de la BBC, un suspect a en revanche été interpellé tout à l'heure. Il s'agit d'un homme de 53 ans d'origine britannique qui pourrait être le conducteur du véhicule. Le Premier ministre anglais Keir Starmer s'est de son côté dit très choqué par ces scènes, je cite, épouvantables. Rien ne dit cependant à ce stade s'il s'agit d'un acte volontaire ou d'un tragique accident.
Il est 11h58, on se retrouve pour parler sport dans un instant. Une page de sport consacrée au tennis avec la suite de Roland Garros. À tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Artisan, produit BTP, patenté, votre outil de travail mérite l'excellence. Jusqu'au 30 juin 2025 chez Mercedes-Benz, profitez d'une offre exceptionnelle et bénéficiez de 37% en défiscalisation sur nos véhicules utilitaires. Votre Mercedes Vito, 6 mètres cubes, BVA, 190 chevaux, à 3 390 000 francs. Et votre Mercedes Sprinter, 11 mètres cubes ou 14 mètres cubes, BVA, 170 chevaux, à partir de 3 690 000 francs. Rendez-vous chez Mercedes-Benz au village automobile PK4 à Nouméa. Offre réservée aux professionnels éligibles au dispositif Odeum, sous réserve d'acceptation du dossier par le cabinet de défiscalisation Interinvest. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite ? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
C'est donc du tennis qui va occuper cette page de sport avec la suite de Roland-Garros. C'est une première journée mitigée pour les Français, Léo Fichou.
On retiendra d'abord la victoire de Richard Gasquet. C'était sa dernière apparition en Roland-Garros. C'est sa dernière apparition. Le tennisman de bientôt 39 ans prendra sa retraite après le tournoi parisien. Chaque match gagné est donc un moment de plus savouré auprès du public, tout acquis à sa cause. Cette nuit, il a battu son compatriote Terence Hatman 3-7-1.
C'est vrai que j'ai eu un mois où j'ai eu très mal, ça a été dur de se préparer, il y a eu pas mal de blessures, mais j'avais vraiment à cœur de venir ici, c'est extraordinaire, c'est la dernière fois, c'est sûr que c'est quelque chose de très très spécial pour moi. Je suis heureux d'avoir pu gagner ce premier tour, c'est vrai que je savais pas trop à quoi m'attendre. Il a été blessé un peu à la fin du troisième set, mais en tout cas je suis très très heureux d'avoir pu gagner ce match et de pouvoir jouer un autre ici à Roland-Garros, donc je fais durer le plaisir et c'est vrai que c'est extraordinaire pour moi et je veux vous remercier encore une fois pour aujourd'hui.
Richard Gasquet ovationné qui retrouvera au prochain tour le numéro 1 mondial Yannick Sinner. L'Italien a sorti un autre Français au premier tour. Il s'agit d'Arthur Hinderknecht pour qui l'aventure sur les courts de Roland-Garros s'arrête prématurément. Côté tricolore encore, Hugo Gaston a dominé Hugo Blanchet dans un duel 100% tricolore. Et puis un autre Hugo, Humbert, cette fois a battu l'Australien Christopher O'Connell. Chez les prétendants, on retiendra Carlos Alcaraz, s'est facilement imposé face à l'Italien Giulio Zeppieri en 3-7. Il s'est même offert un ace pour conclure le match. En revanche, Taylor Fritz a été sorti dès le premier tour par l'Allemand Daniel Altmaier 3-7-1.
Et puis ça a été une journée très compliquée côté féminin pour les tricolores.
Caroline Garcia a disputé son dernier match à Roland-Garros. Elle s'est inclinée en 2-7 face à l'Américaine Bernarda Pera au terme d'un match intense, riche en émotions et en rebondissements. Beaucoup d'émotions au moment de raccrocher la raquette.
En plus de vous remercier tous le public, j'aimerais aussi remercier tous ceux qui m'ont soutenue pendant toutes ces années. Ma famille, mes amis, mes proches et depuis 2 ans, mon fiancé et futur mari. Il m'a énormément soutenue dans ces 2 dernières années qui ont été très difficiles pour moi. Et il m'a donné un coup de boost pour réussir à partir et terminer ma carrière en aimant le tennis et pas comme en le détestant comme à un moment donné je pensais que je le détestais. Mais j'adore ce sport et il m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et en tout cas, je voudrais tous vous remercier. Et en tout cas, ce chapitre a été immense. Merci à tous.
Caroline Garcia après son élimination. Côté résultat encore, Diane Parry a été sèchement battue par Robin Montgomery. Carole Monet a réussi à remporter un premier set accroché avant de s'effondrer et de s'incliner face à Cathy Boulter. Seul succès féminin côté tricolore, celui de Léolia Jean-Jean qui profite de l'abandon d'Irina Camélia Bégou.
Merci Léo, c'est la fin de ce journal.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.